très bientôt. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin. Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Nigeria, plus de 18 500 000 enfants, majoritairement des filles, n'ont pas accès à l'éducation, un chiffre qui a presque doublé par rapport à 2021, déplore l'UNICEF. Les attaques menées contre des écoles par les djihadistes et les gangs criminels dans le nord ont découragé les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, a souligné devant la presse Rahma Farah, responsable du bureau de l'UNICEF à Kano. Les violences et enlèvements de masse ont forcé les autorités à fermer plus de 11 000 écoles depuis décembre 2020. En 2021, environ 1 500 élèves ont été kidnappés par des zones armées. Dans le nord musulman, seulement une fille sur quatre termine le collège en milieu rural, souligne l'UNICEF, qui met en garde contre une augmentation des cas de mariage d'enfants et de grossesse précoce. La Fédération américaine de football a annoncé le 18 mai 2022 avoir conclu un accord avec les joueurs et joueuses, formalisant des salaires égaux entre l'équipe féminine et l'équipe masculine. Avec 4 titres en Coupe du Monde et autant de médailles d'or aux Jeux Olympiques, l'équipe féminine des États-Unis est la plus titrée du foot chez les femmes. Mais son homologue masculin n'a jamais fait mieux qu'une troisième place il y a plus de 90 ans en 1930. Selon les termes de la convention collective ratifiée, les primes seront identiques pour les sélections masculines et féminines et introduisent un mécanisme analogue de partage des revenus commerciaux. La FIFA avait octroyé une prime de plus de 32 millions d'euros à l'équipe masculine de la France victorieuse en 2018, tandis que les Américaines avaient reçu 3,4 millions d'euros pour leur titre mondial en 2019. Et les joueurs américains, éliminés en 8e de finale en 2014, avaient reçu 4 500 000 euros, alors que leurs homologues féminines n'avaient eu qu'1 450 000 euros pour avoir remporté leur compétition l'année suivante. Depuis le 20 mai, la France est dotée d'un gouvernement paritaire avec 14 hommes et 14 femmes, y compris la nouvelle première ministre Elisabeth Borne, nommée le 16 mai par le président Macron. La diplomate Catherine Colonna est à la tête du ministère des Affaires étrangères. À la culture, la franco-libanaise Rima Abdul-Malak. L'ancienne ministre de la fonction publique Amélie de Montchalin et la nouvelle ministre de la transition écologique. À la santé, Brigitte Bourguignon, qui était ministre déléguée chargée de l'autonomie. Sylvie Retailleau, présidente d'université et ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, succédant à une autre universitaire, Frédéric Vidal. Au sport, l'ancienne tenniswoman Amélie Oudéa-Castéra remplace l'ancienne nageuse Roxana Maratinanu, née en Roumanie. Et la ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme et l'experte en genre Isabelle Rome, qui remplace la businesswoman d'origine capverdienne Elisabeth Moreno. À Tokyo, au Japon, une école de médecine qui avait rendu son examen d'entrée plus difficile pour les femmes a été condamnée pour discrimination sexiste et devra verser des dédommagements à 13 étudiantes. L'université Juntendo a affirmé en 2018 avoir placé la barre plus haut pour les femmes aux examens, arguant qu'elles avaient des capacités de communication supérieures et disposaient donc d'un avantage par rapport aux hommes pour les entretiens oraux. Un autre établissement, l'Université médicale de Tokyo, avait avoué avoir falsifié les notes des candidates pour que la proportion de ses étudiantes ne dépasse pas les 30%. Après enquête, le ministère de l'Éducation avait découvert des procédures discriminatoires contre les femmes aux examens dans au moins 4 écoles. La compagnie aérienne saoudienne Flydeal a effectué un vol avec un équipage entièrement féminin en Arabie Saoudite, une première pour le pays ultra-conservateur. L'autorité saoudienne de l'aviation civile s'est félicitée d'avoir soutenu l'inclusion des femmes dans ce domaine. Début mai, l'Arabie Saoudite a annoncé son intention de devenir un hub mondial dans le transport aérien en triplant son trafic annuel pour atteindre 330 millions de passagers d'ici la fin de la décennie. Riyad prévoit aussi de lancer une nouvelle compagnie nationale aérienne et de construire un méga aéroport dans la capitale. Afghanistan, depuis le 21 mai, les présentatrices des principales chaînes de télévision sont obligées de se couvrir entièrement le visage à l'antenne. Début mai, le chef suprême des talibans a émis un ordre selon lequel les femmes devaient porter le voile intégral en public. Des femmes journalistes avaient choisi de passer à l'antenne sans s'y conformer, mais plusieurs chaînes ont subi des pressions des talibans. Ces derniers ont ordonné que les femmes qui travaillent au sein du gouvernement soient licenciées si elles ne respectent pas le nouveau code vestimentaire. Les hommes risquent également d'être suspendus si les femmes de leur famille ne s'y conforment pas.
Parole de femme.
L'accès des femmes à la terre a été évoqué à la COP15 en Côte d'Ivoire et une tribune spéciale dédiée au caucus genre a fait l'objet de réflexions sur l'acquisition difficile de la terre par les femmes en Afrique et dans d'autres régions du monde. Un dossier de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bouys.
Les traditions ont vraiment la peau dure. Selon les Nations Unies, les femmes représentent la moitié de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne, mais ne détiennent que 18% des titres fonciers. Les pesanteurs socioculturels et autres préjugés du droit coutumier ont contribué au fil des ans à la marginalisation des femmes. Suzanne Kwame-Siri, spécialiste en genre à l'Agence foncière rurale.
Selon nos traditions, la femme est appelée à quitter sa famille d'origine pour aller se marier. Donc, donner une parcelle de terre dans sa famille d'origine, il revient à extraire cette parcelle de terre à la mariée parce qu'on estime que si elle a accès à la terre, c'est son mari qui va en bénéficier.
Difficile accès des femmes à la terre et les hommes dominent le milieu agricole. Madame Powa Clarisse, agricultrice, témoigne.
Cette affaire de frontière rurale, nous les femmes, ça nous crée énormément de problèmes. Hein. Les gens donnent la priorité aux hommes, alors que nous aussi, on peut valablement les mettre en valeur. Donc vraiment, c'est une étape aussi pour nous les femmes.
Dans la plupart des cas, les femmes ne possèdent pas les terres qu'elles mettent en valeur. Un autre témoignage avec Madame Aline Nitrou.
La place là, il n'est pas acheté. Donc nous avons vu la forêt, nous l'avons nettoyée. Nous avons parlé au chef du
L'ex-vice-ministre des Affaires étrangères du Costa Rica a été clair, le Renard Angel.
Il est temps maintenant que nous nous rendions compte que la même vérité s'applique à la femme. Il faut changer les narratifs. les femmes et les jeunes femmes sont des agents du changement.
Et les lignes ont timidement commencé à bouger. Le patriarche Jean Amondi, chef des terres dans le village d'Adjamé-Bencherville, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Abidjan, assis sous un arbre entouré de ses notables, a tenu à faire cette déclaration traduite par l'un de ses conseillers.
Ici, nous avons les terres. Il ne faut pas seulement que ce soit les hommes qui en bénéficient. Il faut que les femmes aussi aient leur part. Donc, il va s'assurer les femmes, les hommes également soient à ce niveau-là.
Dans le village des locaux, les responsables coutumiers cherchent aussi à lever les restrictions à l'accès à la terre pour les femmes. Le chef central, Christophe Gaumont.
Tous les enfants sont égaux, disent la loi. Donc, s'il y a une fille qui est fille de son père qui est décédée, qu'il n'y a pas de garçon tel qui prend. Si les frères du père veulent prendre la plantation à la fille, en tout cas, nous, je dis non.
Pour Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies, il faut joindre le geste à la parole.
Nous savons que les femmes passent beaucoup de temps tous les jours à cultiver la terre et pourtant elles n'ont pas accès aux titres fonciers et au financement. Et nous devons permettre aux femmes de posséder la terre. Cela va changer les choses.
Félicité Coutouan, directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère ivoirien de la Famille, a conclu par ce message d'espoir.
Nous espérons que cette COP sera vraiment la clé qui va permettre de booster la question de l'autonomisation des femmes.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Kenya, les vendeuses de poissons peuvent, grâce à une application, éviter les demandes de faveurs sexuelles de certains pêcheurs du lac Victoria. Jimmy Niwa nous en dit plus.
Karen Omondi, mère de 6 enfants, vend du poisson à Kisumu, le long du lac Victoria. Elle récupère les marchandises qu'elle a commandées sur une application appelée Aquaresh. Celle-là lui permet d'éviter tout contact avec des pêcheurs qui peuvent exiger des relations sexuelles en échange de poissons. C'est un problème auquel sont confrontées les commerçantes de poissons, en particulier celles qui se sont endettées auprès des pêcheurs, explique Omondi, qui ne voulait pas montrer son visage.
Ça. Vous accumulez beaucoup de dettes et il est difficile de les rembourser. Donc vous continuez à dire que vous payez plus tard, mais vous finissez par rembourser la dette en ayant des relations sexuelles, jaboya, avec le pêcheur.
Pourquoi la jaboya?
Jaboya signifie client et cette pratique sévit sur les rives du lac Victoria. Les militantes affirment que le problème est en partie dû à la pauvreté et à la diminution des stocks de poissons causés par la surpêche. Quelques 30% des femmes commerçantes de poissons sont impliquées dans le jaboya, selon des responsables de l'Institut de recherche marine et halieutique du Kenya.
Surtout les veuves, elles doivent se débrouiller pour leur famille. Elles ont le sentiment qu'elles n'ont pas d'autre choix pour soutenir leur famille, en particulier dans les ménages dirigés par des femmes.
La pêche en cage, augmentant l'offre de poissons à vendre, les incidents d'exploitation sexuelle ont diminué au cours des 10 dernières années, selon l'Institut de recherche. Les responsables prédisent également que l'application Aquaresh fera encore baisser les chiffres. Le développeur Dave Okech dit qu'il a conçu l'application pour améliorer la commercialisation du poisson et est surpris de voir comment cela a eu un impact sur Jaboya.
Nous avons été étonnés de voir quel impact l'innovation a eu en termes du nombre de femmes qui sont désormais capables de vendre du poisson dans un environnement libre et ouvert sans se soumettre à l'échange déshumanisant du sexe pour le commerce du poisson.
Lancé pendant la pandémie de Covid, Aquaresh affirme qu'environ 150 poissonnières à Kisumu utilisent l'application. L'entreprise espère s'étendre aux comtés voisins et vise à inscrire quelques 2000 commerçants de poissons d'ici la fin de cette année. Quant à Karen Omondi, elle a installé une poissonnerie dans son village. Elle confie qu'elle est soulagée de pouvoir vendre son poisson sans craindre d'être exploitée sexuellement.
Oh,
sages-femmes vont désormais pouvoir accompagner les femmes enceintes à accoucher dans les positions qui leur conviennent, grâce à des techniques d'accouchement dites humanisées et respectueuses. C'est une première pour le pays qui jusqu'alors ne pratiquait que la position gynécologique adoptée dans toutes les maternités du monde. Un reportage d'Amen Assignon.
Dans la position humanisée, ce n'est pas des positions statiques du début jusqu'à la fin.
Attentive aux explications de la formatrice, ces sages-femmes découvrent pour la première fois de nouvelles techniques d'accouchement, un accouchement dit humanisé et respectueux.
On vous présente dans vos maternités à pratiquer cet accouchement humanisé-là.
Ces techniques prennent en compte l'usage de divers outils, à savoir le ballon gym, la chaise Maya, le levier Maya, la table d'accouchement et la corde Regula. L'accouchement humanisé a été enseigné aux sages-femmes à la faveur d'une formation initiée par l'Alliance fraternelle Aide pour le développement AFAD, avec l'appui technique du ministère de la Santé. Douvi Tometi est le coordonnateur de programme à l'AFAD.
Cette nouvelle technique d'accouchement que nous appelons communément accouchement humanisé, respectueux, est nécessaire que les sages-femmes l'apprennent, parce que cela demande à ce qu'on respecte les droits sexuels de la femme, l'intimité de la femme, que les prestataires respectent aussi la volonté des femmes qui viennent accoucher.
Une trentaine de sages-femmes issues de la préfecture de Pélé, dans la région des plateaux du Togo, ont été édifiées sur cette nouvelle approche. Marie-Françoise Dohou fait partie de cette première cohorte de sages-femmes formées.
Nous avons appris de nouvelles techniques d'accouchement, notamment comment accoucher une femme qui est en position assise. Et quand on parle de la position assise, on peut noter trois types de positions assises. La femme peut s'asseoir sur une chaise Maya, la femme peut être en position demi-assise avec le levier Maya, ou carrément la femme est assise sur un ballon, ou soit comment accoucher une femme qui est couchée sur le côté, une femme qui est en position debout. La femme même peut s'accroupir et accoucher. La femme peut être à genoux et accoucher. La femme peut être à quatre pattes pour accoucher. Et la sage-femme doit être habilitée à faire sortir le bébé dans toutes ces positions-là.
Des positions qui soulagent la douleur et le stress lors de l'accouchement. Mère de quatre enfants, Abidé a pu profiter de ces nouvelles techniques lors de son dernier accouchement. Cette nouvelle approche n'est pour l'heure pratiquée que dans quelques centres de santé du Togo. Elle sera élargie à d'autres formations sanitaires par le ministère de la Santé dans les mois à venir. Amen Assignon, Lomé, pour la VOA.
Les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Si je ne pouvais.
Au Cameroun, le fléau de la drogue prend de l'ampleur chez les jeunes, notamment les enfants de la rue. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Le sport matinal, c'est désormais un rendez-vous obligatoire pour Jean-Claude, 33 ans, Raina, 19 ans, Jeff, 18 ans et Enzo, 16 ans. Des visages d'une jeunesse déterminée à abandonner la drogue dans ce centre de désintoxication.
Quand un malade est admis ici, nous ne traitons pas avec les comprimés. Nous le prenons en charge avec les produits de base, les produits naturels. Au bout de quelques temps, ces produits le nettoient de l'intérieur et de cette propriété intérieure qui apparaît au niveau de la peau. À cause de ça, ceux qui résonnent autrement, ils disent des choses qui ne sont pas courantes. Nous les donnons le germe de truc naturel. Après 12 jours, vous allez voir quelqu'un qui est venu en train de raconter des histoires dans l'air, elles sont finies, les crises bipolaires, est stable, telle que vous avez vu la jeune fille qui est là, Raina, qui est venue ici à l'État, elle était inconsolable, elle ne peut pas parler devant les gens.
Raina, c'est cette jeune fille de 19 ans qui a pris la drogue à l'âge de 13 ans pour la première fois. Rejetée par ses parents, elle porte aujourd'hui une troisième grossesse indésirée. Elle est en phase de rééducation.
À mon arrivée ici à Cipès, j'ai compris que chaque être humain a droit à la vie, chaque personne a droit à une seconde chance. Avec des encadreurs comme Dr Abel, vraiment, nous avons vraiment besoin de ça. Il nous conseille. Et quand il nous fait cela, nous ne nous sentons pas rejetés.
Lui est chirurgien dentiste. À cause des problèmes familiaux, ce jeune médecin a sombré dans la drogue en 2020 sous l'influence d'un de ses amis.
Je suis arrivé ici escorté par 4 gendarmes lourdement armés sous le regard désemparé de mon papa. Pendant un bout de temps, je me suis retrouvé à nourrir même secrètement l'envie de fuir du centre, malgré que j'avais des chaînes aux pieds. Après beaucoup de réflexions, je me suis finalement ouvert au docteur Abel, qui m'a immédiatement pris dans ses bras, et c'est là où le traitement a commencé.
Au Cameroun, 60% des usagers de la drogue ont entre 20 et 25 ans. Des élèves comme Jeff et Enzo ont vu leur cursus scolaire brutalement interrompu à cause des stupéfiants.
Il n'y a pas d'avantage à être un groggy, à être un fumeur, à être, je sais vraiment pas, à être un vibré, comme on le dit vulgairement. Voilà. Et pour les parents qui ont des enfants qui se retrouvent dans la même situation que nous, j'aimerais qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils aient toute confiance en eux. Parce qu'ils n'ont pas fauté sur l'éducation de leurs enfants. C'est juste que c'est une erreur.
Si j'avais été droit dès le départ, maintenant je devais être à l'université. Mais je suis encore en classe de première. Ça m'a ralenti.
Reprendre leurs activités dans la société, renaître pour certains ou repartir en famille, c'est désormais le vœu de ces jeunes qui chantent en chœur contre la drogue. Emmanuel Junta, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.